Didier rêvait à nouveau de rôti de bœuf. Elle était à son buffet préféré, hésitant entre les aubergines au parmesan et les tranches de rôti saignantes. Elle se décida pour les deux et plongea sa main droite directement dans le plat d'aubergine, tout en attrapant de fines tranches de bœuf juteuses avec la gauche. Elle avait des fils de fromage fondu sur le bras et de la sauce lui dégoulinait sur le menton. On s'en foutait. Elle monta sur la table recouverte d'une nappe blanche et posa ses fesses entre la couronne de gelée aux fruits vertes et l'assortiment de crème dessert surmontée d'une cerise. Elle se servit à pleine main de gelée spongieuse tout en lapant le tapioca onctueux à même la coupe réfrigérée. Elle était affamée, carrément morte de faim. Puis la nourriture disparut et elle se retrouva sur un immense matelas couvert de satin. Elle était couchée sur le ventre, le visage dans les bras, et son corps dénudé s'étirait avec des ronronnements de chat, tandis que des mains inconnues faisaient des choses divines le long de sa colonne vertébrale et sur ses hanches, qui se tortillaient, trouvaient l'intérieur de ses cuisses. Elle savait où elle voulait qu'elles aillent, où elle avait besoin d'être touchée, d'être prise. Elle souleva obligeamment les jambes, puis elle fut soudain retournée. Ses jambes s'écartèrent pour recevoir des coups de boutoir et elle se retrouva nez à nez avec la grosse moustache de Brian Miller. Didi se réveilla en sursaut dans sa chambre. Les mains crispées sur ses couvertures, le corps recouvert d'un fin vernis de transpiration, elle s'efforça de maîtriser sa respiration. Elle resta un temps incalculable, les yeux rivés sur ses murs gris, le matin s'imposant peu à peu dans l'obscurité pluvieuse. Elle lâcha les draps, repoussa les couvertures, se stabilisa sur ses jambes le temps de se rendre à la salle de bain, où elle se regarda dans le miroir au-dessus du lavabo. « Ça n'est jamais arrivé », dit-elle avec autorité à son reflet. 5h30 du matin, elle se brossa les dents et se prépara pour la journée qui commençait. Didi était une réaliste. On ne restait pas 20 ans dans le métier sans comprendre quelques cruelles vérités sur la nature humaine. Dans les affaires de disparition, pendant les premières 24 heures, elle accordait 50% de chance pour retrouver la personne en vie. Il y avait des adultes qui fuguaient, des couples qui se disputaient. Certains arrivaient à passer l'orage, mais d'autres avaient besoin de prendre l'air un jour ou deux. Donc pendant 24 heures, peut-être même 36, elle avait été prête à croire que Sandra Jones était vivante et que les super enquêteurs qu'ils étaient allaient peut-être la ramener chez elle. 52 heures plus tard, Didi ne songeait plus à localiser une mère de famille. Elle songeait à retrouver un cadavre. Et même avec cet objectif en tête, elle savait que le temps était toujours compté. Les crimes et les enquêtes obéissent à un certain rythme. Pendant les 24 premières heures, on peut non seulement espérer que la victime en réchappe, mais aussi que le criminel commette une bêtise. Enlèvements, agressions, homicides provoquent tous des émotions fortes. Les individus aux prises avec de telles émotions font souvent des erreurs. Saturés d'adrénaline, rongés par l'angoisse ou même le remords, le criminel est en proie à la panique. « J'ai fait quelque chose de mal, comment m'en sortir ?» Malheureusement, lorsque les jours passent sans que la police ne resserre son étau, l'individu a le temps de s'apaiser, de prendre ses marques, de commencer à envisager la suite des événements de manière plus rationnelle, d'élaborer un plan plus concret pour se couvrir. Le criminel se replie dans ses tranchées, se débarrasse des preuves, peaufine sa version des faits, voire influence des témoins clés, comme par exemple sa fillette de 4 ans. Autrement dit, le criminel, de l'amateur maladroit qu'il était, se mue en génie du crime. Didi n'avait pas envie de se colter avec des génies du crime. Elle voulait un cadavre et une arrestation, le tout à temps pour les infos de 17h. Accentuer la pression, serrer la vis et résoudre une affaire en beauté, voilà le genre de choses qui lui faisait plaisir. Malheureusement, il y avait un peu trop de gens sur lesquels elle devait faire pression. Prenez Ethan Hastings, 13 ans, brillant à faire peur et éperdument amoureux de son enseignante disparue. Casanova en herbe ou adolescent dégénéré? Venait ensuite Aidan Brewster. Authentique délinquant qui avait par le passé commis des erreurs dans ses choix de partenaire sexuel. Il prétendait ne pas connaître Sandra Jones, mais vivait à quelques maisons de la scène du crime. Agresseur sexuel repenti ou criminel sur la mauvaise pente et animé d'un nouvel appétit de violence. Le père de Sandy. L'honorable Maxwell Black ne devait pas être mis du tableau. Père brouillé avec sa fille, il avait surgi comme par enchantement lorsque celle-ci avait disparu. D'après l'agent Hawks, Black avait paru menacer Jones et avait manifestement l'intention de voir sa petite-fille d'une manière ou d'une autre. Père éploré, ou grand-père opportuniste qui aurait fait n'importe quoi pour mettre la main sur lui. Enfin, elle en revint à Jason Jones, le mari imperturbable qui n'avait pas encore esquissé le moindre geste pour retrouver son épouse disparue. Il prétendait ne pas être du genre jaloux. Mais aucun document administratif le concernant ne datait d'avant son mariage avec Sandy, 5 ans plus tôt. Forcément un nom d'emprunt. Didi tournait en rond, mais elle en revenait toujours à Jones. Le récit de la soirée du mercredi par sa propre fille, son attitude déconnectée depuis que sa femme s'était volatilisée, l'emploi manifeste d'un pseudonyme. Jones cachait quelque chose, ce qui faisait de lui le meilleur suspect dans la disparition de sa femme. Voilà. Didi allait dès que possible faire venir la petite Ree pour une nouvelle audition. Elle allait s'organiser pour que 2 agents enquêtent sur chacun de leurs autres suspects, en reconstituant leur passé et en vérifiant les alibis. Mieux encore, elle allait demander à 2 de ses meilleurs enquêteurs du service de la délinquance en col blanc de remonter la piste des comptes en banque de Jones, suivre l'argent, découvrir son vrai nom, ses vrais antécédents, son vrai passé. Démolir le pseudonyme, démolir l'homme. Satisfaite, Didi sortit son carnet de notes et griffonna un grand mot d'ordre pour la journée, mettre la pression à Jason Jones. Le portable de Didi sonna 10 minutes plus tard. Il était à peine 7 heures, mais sa vie n'était pas de celle où les gens n'appellent qu'aux heures ouvrables. Elle prit une nouvelle gorgée de café, ouvrit son téléphone et répondit « J'écoute. » Commandant Didi Warren, aux dernières nouvelles, son interlocuteur marqua un temps d'arrêt. Elle reprit une gorgée de cappuccino. « Je m'appelle Wayne Reynolds, je travaille pour la police d'État du Massachusetts. Et je suis aussi l'oncle d'Ethan Hastings. » Didi considéra cette information. Le numéro qui s'affichait sur son écran lui semblait familier. Puis elle sut. « Vous n'auriez pas appelé hier matin ? J'ai essayé votre bip, j'avais vu la conférence de presse et j'ai pensé qu'on devrait se parler. » À cause d'Ethan ? Nouveau silence. « Je crois que le mieux serait qu'on puisse se rencontrer. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pourrais vous inviter à petit déjeuner. Vous croyez que nous allons arrêter Ethan ? Je crois que dans ce cas, vous feriez une grossière erreur. » Donc vous allez jouer les gros bras de la police d'État, me demander de laisser tomber ? Parce que j'aime autant vous dire tout de suite que je prends plutôt mal ce genre de conversation et que de m'offrir un bagel fourré à la crème n'y changera rien. Et si on commençait par se rencontrer avant que vous soyez hostile et indifférente ? C'est vous qui voyez. Elle donna le nom d'un café au coin de la rue et alla chercher un parapluie. Le café de Mario était le repère des habitants du quartier. Tout petit, avec le bar originel en fornica qui datait de 1949 et un énorme bocal en verre rempli de biscottis frais à côté de l'antiquaisse enregistreuse, Mario II, le fils, dirigeait maintenant l'établissement. Il servait des œufs, des toasts, de la pancetta et le meilleur café qu'on pouvait trouver hors d'Italie. Didi conquit de haute lutte une petite table ronde dans le coin près de l'aventure. Elle arriva en avance, essentiellement pour siroter une 2e tasse de café en paix, tout en jouant du portable. Elle était fascinée par cette démarche de l'oncle. Alors qu'elle était là, à se dire qu'elle devrait accentuer la pression sur le mari, voilà que la famille du prétendant, adolescent, entrait dans la mêlée. Parents surprotecteurs ou sentiment de culpabilité ? Intéressant. Didi appuya sur la touche préprogrammée et porta son petit téléphone à son oreille. Et ce n'était pas parce qu'elle avait fait un rêve sexuel la nuit précédente qu'elle appelait Bobby Dodge. « Allô ?» répondit une voix féminine. « Bonjour Annabelle, » dit Didi d'une voix où on ne percevait pas l'anxiété qui la saisit aussitôt. Les autres femmes ne l'intimidaient pas. C'était une règle absolue qu'elle s'était fixée des années plus tôt. Le jour où elle avait réalisé qu'elle était plus jolie que 90% de la gente féminine et 100% meilleure avec un pistolet chargé. Annabelle devait naturellement être l'exception à cette règle et elle avait mis le grappin sur Bobby Dodge. Ce qui faisait d'elle la bête noire de Didi, même si elles étaient toutes les deux raisonnablement aimables l'une avec l'autre. Bobby est réveillé ? Tu ne l'as pas appelé au milieu de la nuit ? Si, et il faut que je te félicite au fait, félicitations. Merci. Et tu te sens bien ? Oui, merci. C'est pour quand ? Août. Fille ou garçon ? On veut la surprise. C'est chouette. Alors Bobby est là ? Il va encore te raccrocher au nez. Je sais, ça fait partie de mon charme. Il y eut un lointain bruit de pas traînant, Annabelle qui apportait le téléphone à son mari, puis un grognement masculin lorsqu'elle secoua Bobby pour le réveiller. « Dis-moi que je rêve », maugréa-t-il dans le téléphone. « Je sais pas, est-ce que je suis toute nue et couverte de chantilly ?»« Didi, on s'est parlé il y a 8 heures. Et c'est ça qui est bien avec une enquête, ça s'arrête jamais. Mais les enquêteurs, si. Bon, j'ai une question à te poser à propos d'un collègue à toi dans la police d'État, Wayne Reynolds. Ça te dit quelque chose ? Il y eut un long silence, ce qui était mieux que l'habituel raccrochage. Wayne Reynolds, finit-il par répéter. Non, je vois aucun enquêteur de ce nom-là. Didi hocha la tête, silencieuse. La police municipale de Boston, comme la police d'État du Massachusetts, étaient des administrations de taille respectable. Mais il y régnait néanmoins un esprit plus ou moins familial. Même si vous ne travailliez pas directement avec tous les agents, il était probable que vous aviez entendu leur nom dans le couloir, que vous l'aviez lu en haut d'un rapport, voire que la dernière rumeur avait porté jusqu'à vous une histoire croustillante à leur sujet. « Si, attends !» reprit bientôt Bobby. « Je connais ce nom en fait, mais c'est pas un enquêteur. Il bosse au labo informatique. Il s'est occupé de l'analyse des téléphones portables sur le braquage de banque l'an dernier. C'est un fondu d'électronique ? Je crois qu'il préfère le terme d'investigateur numérique. Ouais. Tu as saisi des ordinateurs et tu sollicites la collaboration de l'État ? J'ai saisi des ordinateurs et j'ai sollicité la collaboration du BRIC. Je te remercie. Installé dans les locaux du commissariat de Boston, le BRIC, Boston Regional Intelligence Center, était tout bonnement la brigade d'informaticiens de la police de Boston, parce que, comme toute administration qui se respecte, celle-ci jugeait indispensable d'avoir ses propres joujoux et des spécialistes dans tous les domaines, ça allait sans dire. « Bah alors appelle quelqu'un du BRIC, » grommela Bobby. « Ils auront sans doute bossé avec Wayne, pas moi. »« Ok, bonne nuit, Bobby. »« Fais chier, c'est déjà le matin, maintenant je vais être obligé de me lever. » Bah alors, bonne journée, Bobby. » Didi raccrocha avant qu'il puisse encore pester contre elle. Elle remit son portable à sa ceinture et contempla sa tasse vide. Wayne Reynolds était un as de l'informatique professionnel qui avait un as de l'informatique amateur comme neveu. Elle remplit sa tasse. Intéressant. Wayne Reynolds franchit le seuil de chez Mario à 8 heures précises. Didi le reconnut à ses beaux cheveux roux, assez semblables à ceux de son neveu. Toute ressemblance avec un gamin de 13 ans s'arrêtait cependant à cette chevelure cuivrée. Wayne Reynolds était grand, au moins 1,85 m. Il se déplaçait avec aisance et agilité, clairement quelqu'un qui se débrouillait pour caser un jogging tous les jours, même s'il était très pris par diverses autopsies de disques durs. Il portait un blazer léger de couleur fauve, qui mettait en valeur une chemise vert forêt, et un pantalon sombre. Plus d'une tête se tourna à son arrivée et Didi ressentit un léger frisson d'excitation lorsqu'il se dirigea vers elle et rien que vers elle. Si Etana Sings devait un jour ressembler à ça, Sandy Jones était peut-être sur un bon coup. Wayne la salua en lui tendant la main. « Commandant Warren ?» Didi hocha la tête et accepta la poignée de main. Il avait des paumes calleuses, des ongles courts et polis, des doigts absolument admirables et dépourvus d'alliances. Seigneur, il lui fallait du bacon. Vous voulez manger ? Demanda-t-elle. D'accord. Super, je vais commander pour nous deux. Didi profita de l'attente au comptoir pour maîtriser sa respiration et se répétait qu'elle était une professionnelle chevronnée qui n'était en aucun cas affectée par le fait de prendre son petit déjeuner avec un sosie de David Caruso. Malheureusement, elle-même ne croyait pas à ce qu'elle disait. Elle avait toujours eu un faible pour David Caruso. Elle regagna la petite table avec des serviettes et des couverts pour tous les deux, de même qu'une tasse de café noir pour lui. Wayne accepta l'énorme tasse en céramique blanche avec ses doigts admirables et elle se mordit les lèvres. « Comme ça ? » demanda-t-elle laconiquement. « Vous travaillez pour l'État ?»« Au service d'investigation informatique de New Braintree. Comme son nom l'indique, nous y réalisons l'essentiel des expertises numériques. Vous y êtes depuis combien de temps ?» Il haussa les épaules, prit une gorgée de café noir et ouvrit un instant des grands yeux en avalant. 5 ou 6 ans. J'étais enquêteur avant ça, mais passionné d'informatique comme j'étais, j'avais tendance à me focaliser sur le versant technologique des affaires. Étant donné qu'aujourd'hui, tout le monde, du dealer jusqu'au caïd de la mafia, se sert d'ordinateur, de téléphone portable et d'agenda électronique, mes compétences techniques ont été de plus en plus demandées. Alors, j'ai suivi la formation de 80 heures pour devenir ingénieur certifié en criminalistique numérique et j'ai été muté au labo informatique. Ça vous plaît ? Oui, les disques durs sont comme des pochettes surprises. Tous les trésors dont vous avez toujours rêvé s'y trouvent cachés quelque part. Il suffit de savoir les ouvrir. Les plats étaient arrivés, œufs brouillés et pancetta grillés pour tous les deux. L'odeur était puissante et appétissante, Didi attaqua. Comment on expertise un ordinateur ? demanda-t-elle la bouche pleine. Wayne avait pris une fourchette et deux. Il la regarda d'un air pensif, comme s'il voulait jauger la réalité de son intérêt. Il avait de profonds yeux noisettes et des paillettes vertes. Alors, elle prit soin d'avoir l'air intéressée. « Prenez la règle des 512. C'est le nombre magique en matière d'investigation informatique. » Vous voyez, un disque dur est composé de plateaux ronds en rotation sur lesquels on lit ou on grave des données. Ces plateaux comportent des secteurs de données de 512 octets et tournent en permanence sous la tête d'écriture. Celle-ci doit donc diviser toutes les informations en blocs de 512 octets pour les stocker sur les plateaux. « D'accord, » dit Didi qui se mit à couper sa pancetta. « Maintenant, disons que vous enregistrez sur votre disque dur un fichier qui ne se divise pas parfaitement en blocs de 512 octets. » Il ne fait pas 1024 octets, il en fait 800. L'ordinateur va remplir tout un secteur, puis la moitié d'un autre secteur disponible. Et ensuite, l'ordinateur ne reprend pas là où il s'arrêtait au milieu d'un secteur. Au lieu de ça, un nouveau fichier commencera sur un nouvel espace de 512 octets, ce qui signifie que le fichier précédent dispose d'un excédent de capacité de stockage, ce que nous appelons un espace de chute, sur ce secteur. Souvent, on laisse subsister de vieilles données dans ces espaces chutes. Admettons que vous ouvriez ce fichier, que vous fassiez des modifications et que vous le réenregistriez. La nouvelle version pourrait ne pas écraser exactement les anciennes données comme la plupart des gens se l'imaginent. En fait, elle pourrait être gravée à un autre endroit sur le même secteur, secteur qu'un type comme moi pourrait ensuite fouiller. Dans l'espace chute, il se pourrait que je retrouve l'ancienne version de la lettre où vous avez demandé à votre amant d'assassiner votre mari, ainsi que le document modifié dans lequel vous avez effacé le paragraphe en question. Et voilà, preuve est faite de votre culpabilité. Je n'ai pas de mari, signala Didier avant de reprendre une bouchée d'œufs, mais je me méfierais comme de la peste de mon ordinateur maintenant. Wayne Reynolds sourit, et sans doute avec raison. Les gens n'ont aucune idée de la quantité d'informations qui sont conservées à leur insu sur les disques durs. Je dis souvent qu'un ordinateur est comme une mauvaise conscience. Il se souvient de tout et on ne sait jamais quand il pourrait se mettre à parler. Vous avez appris ce que vous saviez, Ethan ? Demanda Didi. Je n'ai pas eu besoin, ce gamin apprend tout seul. Si j'arrive à lui faire mettre ses compétences au service du bien plutôt que du mal, il fera un sacré enquêteur, un de ces quatre. Et quelle est la face sombre de l'informatique ? Piratage, décodage, exploitation illicite de données. Ethan est un bon gamin, mais il a 13 ans. Donc marcher sur les traces de son oncle ne lui paraît plus aussi excitant qu'à une époque. Entrer dans la police ou entrer dans la cyberdélinquance, à vous de voir. Il semble qu'il faisait grand cas de l'opinion de Sandra Jones. Didi avait terminé son repas. Elle repoussa l'assiette en céramique blanche. Wayne resta pensif un instant. Ethan croit qu'il est amoureux de son professeur, concéda-t-il enfin. Il a couché avec elle ? Ça m'étonnerait. Pourquoi ? Elle ne le considérait pas comme ça. Comment pouvez-vous le savoir ? Parce que je voyais moi-même Sandra, tous les jeudis soirs, au match de basket. Ethan m'a contacté au sujet de Sandra, expliqua Wayne quelques instants plus tard. Ils avaient réglé l'addition, quitté le café. Discuter en marchant semblait une meilleure idée, étant donné l'affaire qui les occupait. Ils se dirigèrent distraitement vers les quais en suivant la ligne rouge qui retraçait l'itinéraire suivi au XVIIIe siècle par le patriote Paul Revere. « D'après ce que j'ai compris, » continua Wayne, Sandra avait demandé à Ethan de l'aider à mettre au point un module d'enseignement sur Internet. Mais il n'avait pas fallu longtemps à Ethan pour comprendre que l'intérêt de Sandy pour la sécurité en ligne avait des origines plus profondes qu'un simple projet pédagogique. Ethan pensait que le mari se livrait à une activité quelconque, peut-être du côté de la pornographie enfantine, et que Sandra cherchait désespérément à connaître le fin mot de l'histoire. Vous n'avez pas ouvert une enquête ? Impossible. La première fois que j'ai rencontré Sandra, elle m'a bien précisé qu'elle n'accepterait mon aide qu'à titre personnel. Tant qu'elle ne saurait pas exactement ce qui se passait, elle ne voulait pas que la police intervienne. Elle devait penser à sa fille. Rhee serait traumatisée si son père allait en prison pour rien. Didi parut étonnée. Si Sandra soupçonnait de la pornographie enfantine, elle aurait dû s'inquiéter à l'idée que sa fille soit traumatisée par bien pire que l'arrestation de son cher papa. Wayne haussa les épaules. Vous savez comment sont les familles. Même si vous montrez à une mère les sous-vêtements tachés de sperme de sa fille de 7 ans, elle prétendra encore qu'il y a une explication logique. Didi poussa un profond soupir. Il avait raison. Et ils le savaient tous les deux. En matière d'agression sexuelle sur mineurs, le déni n'était pas un vain mot. Bon, donc Ethan vous a passé un coup de fil, et ensuite? Pour rendre service à Ethan, qui semblait très inquiet pour son professeur, j'ai accepté d'assister à un des matchs de basket du jeudi soir pour discuter moi-même avec Sandra. J'avoue que je pensais avoir une brève conversation, lui donner les coordonnées d'un enquêteur si elle avait d'autres questions, ce genre de choses, mais sa voix se perdit. Mais, le relança Didi. Là, j'ai vu Sandra Jones, répondit Wayne d'un air presque dépité. Pas la prof de collège telle qu'on se l'imagine ? Observa Didi. Non, pas du tout. J'ai tout de suite compris pourquoi Ethan s'était entiché d'elle. Vraiment, elle était plus jeune que je ne m'y attendais. Plus jolie aussi. Et assise sur ses gradins en bois, cette mignonne petite fille blottie contre ses jambes. Je sais pas, au premier regard, j'ai eu envie de l'aider. J'ai eu le sentiment que je devais l'aider, qu'elle avait besoin de moi. Eh ouais, Marie-Kay Le Tourneau, Debra La Fave, Sandra Bess-Gaisel, que des jolies femmes. Ça ne vous paraît pas bizarre qu'il n'y ait que les mignonnes qui veulent coucher avec des gamins de 12 ans ? C'est quoi le problème ? Puisque je vous dis qu'elle n'entretenait pas ce genre de relation avec Ethan, mais avec vous. Wayne la regarda, impassible. Écoutez, vous voulez savoir ce que j'ai à dire, oui ou non ? Allez-y, répondit Didi en écartant les mains. C'est vous le chef. Ce premier soir, Ethan est resté avec Ree pendant que Sandra et moi faisions un petit tour autour du collège pour discuter. Elle m'a raconté qu'elle avait trouvé une photo inquiétante dans la corbeille de l'ordinateur familial. Seulement cette image-là, et seulement cette fois-là. Elle n'avait rien découvert depuis. Mais entre-temps, elle s'était renseignée sur les historiques de navigation sur Internet, et le stockage de données, et il était évident pour elle que son mari trafiquait l'ordinateur, si bien qu'elle se demandait ce qu'il avait d'autre à cacher. Trafiquer dans quel sens ? Ethan avait montré à Sandra comment retrouver les sites visités par un ordinateur. Ces informations sont stockées dans l'historique du disque dur et devraient être récupérables. Sandra avait fait plusieurs tentatives pour les extraire du navigateur de l'ordinateur familial en se servant de différents outils en ligne qu'Ethan lui avait indiqués. Mais chaque fois, elle n'avait retrouvé les adresses que de trois sites, le Dodge Report, USA Today et le New York Times. « Et en quoi c'est louche ?» demanda Didi, déjà perdu. Parce que Sandra elle-même s'était rendue sur un grand nombre de sites différents pour préparer des devoirs pour sa classe. Tous ces sites auraient dû figurer dans l'historique, mais ce n'était pas le cas. Ce qui signifiait que quelqu'un vidait la mémoire cache, puis reconstituait délibérément un faux historique en cliquant toujours sur les trois mêmes sites quand il avait fini. Pure paresse. Murmura Wayne, sans doute plus pour lui que pour Didi. Comme tous les criminels, même les as des nouvelles technologies finissent toujours par faire une bêtise qui les trahit. Attendez un instant. Revenons en arrière. Pourquoi quelqu'un créerait-il un faux historique ? Ils étaient arrivés sur le front de mer et suivaient les quais vers l'aquarium. Comme il brunait encore, ceux-ci étaient beaucoup moins peuplés qu'à l'ordinaire. Wayne s'approcha de la rambarde, puis se tourna vers elle. Précisément. Pourquoi quelqu'un créerait-il un faux historique de navigation ? C'est la question à $1 million. Ethan avait déjà conseillé un outil d'investigation numérique téléchargeable, mais il n'était pas assez puissant. Il a soupçonné que le mari de Sandra employait un programme qu'on appelle un destructeur, ou un nettoyeur, pour effacer ses traces. Donc il m'a passé un coup de fil, pour faire donner l'artillerie lourde, si on veut. Didi le dévisagea. « Vous avez pu aider Sandra ?»« J'étais en train d'essayer. Ça se passait en décembre, voyez-vous, il y a seulement quelques mois. Et comme elle soupçonnait son mari, nous avons dû agir avec prudence. » Ethan et elle avaient déjà fait tourner le logiciel Pasco sur son ordinateur, mais Pasco ne trouve pas ce qu'on lui demande de chercher. Il est loin d'être aussi puissant que, disons, InCase, le logiciel que nous employons au labo. InCase peut fouiller au cœur du disque dur, recenser les espaces chutes, analyser les secteurs non alloués, plein de trucs sympas. Mieux encore, vu les inquiétudes de Sandra, InCase possède une fonction qui recherche toutes les images sur un disque dur et peut littéralement recracher des centaines de milliers de photos. Et pour finir, InCase a la capacité de sortir les historiques des navigateurs Internet. Donc vous avez fait tourner ce logiciel sur l'ordinateur de Sandra. J'aurais bien voulu, dit-il en levant au ciel ses yeux noisettes. Mais primo, on ne travaille jamais sur la source, ce serait une erreur de procédure. Deuxio, il fallait que Sandra soit discrète. Or, faire tourner InCase sur l'ordinateur familial pendant 3 ou 4 jours risquerait de se voir. Saisir et analyser un ordinateur est facile, tandis qu'en décortiquer un clandestinement... Alors qu'avez-vous fait ? J'essayais d'aider Sandra à faire une copie du disque dur familial qui soit exploitable à des fins d'analyse. Je lui ai donné des consignes sur le type de disque dur vierge à acheter, puis sur la façon de le connecter à l'ordinateur familial pour transférer les données. Malheureusement, Jason avait acheté peu de temps auparavant un nouveau disque dur de 500 gigaoctets, et il faudrait plus de 6 heures rien que pour le copier. Elle avait fait plusieurs tentatives, mais n'était pas arrivée à finir avant que Jason revienne du travail. En résumé, Sandra Jones a passé les 3 derniers mois à comploter contre son mari. Elle a passé les 3 derniers mois à essayer de déjouer ses manœuvres, répondit Wayne avec philosophie. Et comme elle n'a pas encore réussi à copier le disque dur, je n'ai pas encore pu faire tourner Incase dessus. Donc je peux pas vous dire si elle avait vraiment des raisons d'avoir peur de lui. Vous savez quoi ? Répondit Didi en souriant. Hier soir, la police de Boston est devenue l'heureuse détentrice de l'ordinateur des Jones. Wayne ouvrait des grands yeux. J'adorerais. Voyons, votre neveu est impliqué dans l'affaire. Si vous touchez la moindre pièce à conviction, elle serait rejetée par le tribunal plus vite que vous ne pourriez dire conflit d'intérêts. Est-ce que je pourrais avoir une copie des rapports ? Je mettrai quelqu'un du Brick en relation avec vous. Confiez ça à Keith Morgan. Si vous voulez éplucher un disque dur, c'est votre homme. Je vais considérer ça comme une suggestion, répondit Didi, avant de dévisager Wayne Reynolds quelques instants. Est-ce que Sandra pensait que son mari avait compris ce qui se tramait ? Elle y a travaillé pendant des mois. Ça fait long quand on vit avec quelqu'un qu'on pense peut-être secrètement pédophile. Elle devait être de plus en plus tendue. Wayne hésita et l'ombre d'un malaise passa pour la première fois sur son visage. La dernière fois que j'ai vu Sandra, c'était il y a 2 semaines au match de basket. Elle semblait renfermée. Elle n'avait pas envie de parler. Elle m'a dit qu'elle se sentait pas bien et elle est partie avec lui. Je pensais qu'elle était vraiment malade. Elle avait pas bonne mine. Vous saviez qu'elle était enceinte ? Hein ? S'exclama Wayne, qui sembla pâlir légèrement, réellement surpris. Eh bien, pas étonnant qu'elle ait été tendue. Il n'y a pas mieux que d'avoir un deuxième enfant avec un homme dont on se demande déjà si c'est pas un pervers. Lui est-il arrivé de parler du passé de son mari ? De l'endroit où il avait grandi, de leur rencontre ? Wayne fit signe que non. A-t-elle fait allusion au fait que Jones pourrait être un nom d'emprunt ? Vous rigolez ? Non, elle n'a jamais parlé de ça. Didi réfléchit à la situation. On dirait que Jason Jones est assez doué en informatique. Très doué. Assez pour se servir de l'ordinateur, soit pour dissimuler une précédente identité, soit pour s'en fabriquer une autre. Absolument, confirma Wayne. On peut ouvrir des comptes en banque, s'abonner à l'eau ou à l'électricité, se constituer un historique de crédit, tout ça en ligne. Un internaute averti pourrait à la fois créer et camoufler un grand nombre d'identités grâce à son ordinateur. Didi acquiesça, retourna la chose dans sa tête. De quoi aurait-il besoin, à part de l'ordinateur ? D'une adresse ou d'une boîte postale. Tôt ou tard, il faut donner une adresse postale. Par exemple, une boîte qui l'aurait dans un centre UPS. Et un numéro de téléphone associé à ce nom. Quoique maintenant, il pourrait acheter un mobile jetable pour ça. Donc il aurait besoin de quelques éléments tangibles pour étayer son identité, mais rien de bien sorcier. Une boîte postale. Didi n'avait pas pensé à ça. Soit au nom des Jones, soit au nom de jeune fille de Sandy. Elle allait creuser un peu. Est-ce que Sandy a prononcé le nom d'Aidan Brewster ? Non. Et vous pouvez me jurer, en tant qu'enquêteur et membre des forces de l'ordre, qu'à votre connaissance, Sandra Jones n'a jamais été seule avec votre neveu. Ethan ne m'a jamais parlé que de rencontres avec Sandra dans la salle informatique pendant l'heure de battement. Certes, ils étaient souvent seuls pendant ces séances, mais c'était en pleine journée, au beau milieu de l'école. Vous a-t-elle parlé de fuir son mari ? Elle n'aurait jamais abandonné sa fille. Même pas pour vous, Wayne ? Il lui lança à nouveau un regard offusqué, mais Didi ne retira pas sa question. Wayne Reynolds était un homme séduisant et Sandra Jones, une jeune femme très seule. Je pense que Jason Jones l'a tué, déclara-t-il tout net. Il est rentré mercredi soir, il l'a surprise en train d'essayer de copier le disque dur et il a pété un plomb. Il mijotait quelque chose, sa femme s'en est rendue compte, alors il l'a tué. C'est ce que je me dis depuis que j'ai vu la conférence de presse hier. Alors si vous me demandez si je suis personnellement mêlée à cette affaire, oui, je suis personnellement impliquée dans cette affaire. J'ai essayé d'aider une jeune mère inquiète et ce faisant, j'ai peut-être provoqué son assassinat. Ça me met hors de moi. Merde, ça me fait chier comme pas permis. D'accord, vous comprenez que je vais avoir besoin que vous veniez faire une déposition en bonne et due forme. Tout à fait. Cet après-midi, à 3 heures, au commissariat central ? J'y serai. Didier hocha la tête, commença à s'éloigner. Puis une dernière question lui vint. Et Wayne, combien de fois vous avez rencontré Sandra?
Je ne sais pas, peut-être 8 ou 10 fois, toujours au match de basket.
Didier hocha la tête en songeant que cela faisait beaucoup, étant donné que Sandra n'avait jamais eu de copie du disque dur à lui remettre.